pour bien comprendre le rap, je pense qu'il faut comprendre l'individu. Ouais. Mais pas moi, je pense qu'il faut comprendre les individus dans le rap. Oui. Autrement, tu ne peux pas comprendre pourquoi l'autre il va rapper.
En fait, tu racontes une histoire d'un mec qui fait du rap,
ouais,
qui aurait pu être partagée par d'autres, quoi.
C'est ça. Il y a des mecs en prison qui m'ont dit, putain, mec, j'ai quasiment la même histoire que toi, sauf que je suis pas allé à la fac, donc moi je suis en prison.
Bon, Kamal, salut.
Salut.
Merci de venir nous voir aux Entêtés.
Ah ben, avec grand plaisir.
On a vraiment dévoré ton roman, là, qui s'appelle Time Bomb. Je le montre, pour les gens qui regardent sur YouTube. En fait, c'est un roman qui parle d'une vie assez dingue, quoi.
Si tu le dis, moi, c'est la mienne, donc...
Ouais, c'est la tienne, mais en fait, tu nous embarques dans une vie qui part très mal, on va dire. Et puis qui finit plutôt bien. Et en fait, il y a une phrase que tu dis assez vite, je crois que c'est le chapitre 2, qui est super marquante. En fait, tu dis sans cesse, dans tout ce que j'entreprenais, je cherchais le moyen de fuir, d'oublier mon mal de classe. Il m'avait ouvert la cage thoracique, laissant mon cœur à la vue de tous. Je ne vivrais que pour refermer cette blessure, que pour avoir une meilleure estime de moi.
Je suis vraiment content que tu nous dises cette phrase. Ouais. Parce qu'elle est la conclusion de des premiers chapitres. Mmh. Et je crois même que finalement, j'ai écrit les chapitres pour cette phrase. Mmh. Parce qu'elle est le point important, je pense, de ce que j'ai vécu, mais pas seulement, aussi de ce que plusieurs personnes, je crois, ont vécu. En tous les cas, des gens que moi, je connais, c'est un mal qu'on partage. Mmh. Et c'était important d'en parler. C'est important d'en parler parce que, à l'âge adulte, j'ai compris que tout le monde n'avait pas vécu ça, alors que je pensais que c'était beaucoup plus répandu.
Pour te présenter un peu, en fait, toi, tu es un ancien rappeur du collectif Time Bomb.
Sache que nos pensées sont pas compatibles. Yo Jedi, le toi y'a quoi, se présente devant toi, pourquoi? Seul toi, négro, le sait que la force à toi, avec toi, il faut. Car les bons MCs n'épargnent pas les mogwais sans flow. Moi et ma clique, c'est chaud. Puis tout le reste de tout le MIC, il faut la technique de Malka. Sur le beat, y'a pas d'air. 11 secondes, les faux ma clique, on me défonce tous les zombies. Écoute-moi, c'est elle en suite.
Pour les connaisseurs, vous étiez des gens hyper influents dans le monde du rap des années 90?
Ouais, fin des années 90 pour Famille Haussmann, Time Bomb, 96.
L'édition et l'héros précèdent la production de disques et les euros. Je dépense aujourd'hui en défait, fin 90 environ. On est blanc comme neige, c'est ce que nous dirons. Avant qu'il démantèle, j'ai mon Pinolada cocktail, mon Monte Cristo au bec dans le bistrot à Léon. Nous, c'est la Famille Haussmann. On parle pas, on s'exprime, on t'embrouille pas, on t'explique à Paname.
Ouais, c'était juste après NTM. Juste après
exactement,
les débuts d'IAM aussi.
On est la seconde génération, en fait, après, voilà. Après NTM, IAM, MC Solar.
Ok. Mm. Et toi, tu arrives dans le rap après un début de vie, en fait, un peu chaotique. Et le bouquin démarre par une phrase, tu dis, aujourd'hui, mon père a voulu me tuer.
Ouais. Ben, parce que c'est ce qui s'est passé. Moi, quand j'arrive au monde, c'est mes parents qui me racontent, ma mère qui me raconte. Donc, ma mère rentre de la maternité. Quelques jours après ma naissance, donc, et elle a une grosse dispute avec mon père. Et là, lui prend un miroir et tente de le briser sur mon crâne. Et il le brise sur mon crâne, en fait. C'est pas qu'il tente, c'est il le brise sur mon crâne. Et ma mère pense que je suis mort parce que je ne réagis pas, je dois être évanoui à ce moment-là. Et j'ai du sang qui coule, donc elle me jette sur le sofa.
T'as quelques jours, hein, seulement.
J'ai quelques jours, ouais, je dois pas plus de 3-4 jours, ouais. Oh, vraiment nouveau-né. C'est difficile à imaginer, hein. Même moi, quand je vous le dis, mais... Évidemment, je m'en souviens pas, mais je garde la cicatrice.
Ah ouais?
Ouais, j'ai toujours la cicatrice sur le crâne, c'est pour ça que je porte un chapeau. Et donc, elle fout à la porte mon père, et ça prend quelques minutes, ouais. Et puis ensuite, elle décide d'appeler les secours. Et c'est les secours qui disent...
Il est vivant.
Ouais, il est vivant.
Ce qui est dingue, c'est que quand tu le racontes, on a l'impression que tu t'en souviens.
Mais parce que ma mère, quand elle me le raconte, moi déjà, je suis choqué. Ouais. Donc, je lui demande des détails.
T'as quel âge quand elle te le dit?
J'ai 8 ans.
Ah ouais?
Ouais.
Ah, c'est pas un truc récent qui, dans l'écriture du bouquin, est revenu, quoi.
Ah non. En fait, à 8 ans, je l'apprends. Donc moi, en fait, très tôt, je sens que je pousse de travers.
Tu grandis avec ça, quoi.
Ouais, je grandis avec ça.
Ouais.
Limite, mon histoire aurait peut-être été différente si je l'avais appris à 18 ans. Mais moi, j'ai cette construction familiale, tu vois. J'ai cette construction familiale-là. Donc en fait, ça crée quelques désordres.
Et pour resituer les choses, en fait, ta mère, elle est très jeune.
Ouais, elle m'a 19 ans.
À 19 ans, elle a ton frère à 20 ans.
Ouais, c'est ça.
Et en fait, elle est des Comores.
19 ans, mon frère, et 20 ans, moi.
Ouais. Et elle est comorienne.
Ouais.
Donc, c'est ta grand-mère qui l'envoie. Elle a, ta grand-mère a beaucoup d'enfants et elle en envoie une en Europe.
La cadette, ouais.
Voilà.
Ouais.
Et en fait, ta mère parle à peine français.
Ouais, exactement.
Et vous vivez dans 12 mètres carrés.
Alors, quand elle arrive, d'abord, elle va chez de la famille, parce qu'elle est très jeune, elle a alors 15 ans. Mais très vite, elle rencontre mon père, qui est un peu plus âgé. Et là, ouais, c'est ouais, une vie vraiment très précaire, quoi.
Ouais.
C'est 12 mètres carrés ensemble, quoi. Et puis, mais surtout, c'est pas que 12 mètres carrés, c'est aussi insalubre. Mm. Moi, j'ai grandi avec des cafards.
T'as souvenir de ça?
Ouais. Si vous voulez une petite anecdote assez folle, que j'ai jamais raconté d'ailleurs. Un soir, je me réveille, j'entends un bruit. Mais vraiment, ça me tape les tympans. J'entends un bruit énorme. Et j'ai mon frère qui dort avec moi et j'entends ce bruit. Il me dit non. Et c'est tellement énorme que je décide de réveiller ma mère. Et donc, elle dormait juste en dessous parce que c'est un studio. Et je la réveille et je lui dis que j'entends un bruit énorme. Personne n'entendait rien. Et ma mère croit savoir ce que c'est. Elle vient avec moi. Elle me dit accompagne-moi. Donc, on va juste dans la petite salle d'eau. Et elle me met de la flotte dans l'oreille et elle me pousse comme ça la tête. Et il y a un cafard qui tombe.
Ah putain.
C'était ça, en fait. C'est pas juste, tu vois, 12 mètres carrés. C'était vraiment un truc au-dessus d'un restaurant. C'était horrible. Vraiment, c'était horrible. Mais, si vous voulez, c'est horrible avec mon regard d'adulte.
Mm.
Quand je suis gamin, on s'éclate. Mm. On s'éclate. On sait qu'on vit différemment des autres. Parce que quand je vais chez mes potes, je me dis, ah, attends, quand même, notre appartement à la taille de sa chambre.
Mm.
Mais, ça nous attriste quelque part, mais
t'as des yeux,
t'as un enfant. Mais c'est ça, on passe notre temps à jouer au foot, enfin voilà.
Ouais, vous êtes dehors.
Mais tout le temps.
Évidemment, on a une capacité à jouer, mais en général,
c'est incroyable.
C'est impressionnant.
Ma mère,
quand on est malade, quand on est machin, on a le contrôle. Exactement.
Très peu malade. Enfin, à moins qu'on soit vraiment très très malade, on ne va pas à l'école. Mais autrement, je pense relever de pas mal de chocs quand on est gamin.
Et c'est pardon, je t'ai coupé.
Non, mais c'est ma mère qui me rappelait, puisque je lui disais, avec mon regard d'adulte, mais comment on l'a vécu en fait. Et elle me dit, mais vous n'arrêtiez pas de jouer.
Ouais.
Mais c'est comme quand tu vois des gamins dans des pays en guerre qui ont le sourire sur les photos, quoi.
C'est ça.
Tu te dis, c'est incroyable, en fait.
C'est ça.
Non, mais ce qui ressort, c'est que c'est plutôt, en fait, les humiliations d'enfants qui te font du mal. C'est quand tu arrives à l'école et qu'on te dit quel est le métier de ta mère, et tu sais pas.
De mon père.
Et quel est le métier de ton père, et tu te dis...
Je connais pas mon père.
Et tous les gamins te regardent bizarrement. Quoi.
Ouais.
Et après, t'arrives pas à t'en chier au niveau scolaire.
Ouais.
Il y a que le sport qui t'aide, en fait.
Ah oui, le sport, on donne tout. Mais je pense que c'est une histoire que pas mal de Noirs ont connue. Vraiment. Parce que nous, en grandissant, quand on en parle à des potes, etc., ils me disent ouais, normal, quoi. Enfin, nos parents, ils ne nous racontaient jamais ce qu'ils faisaient. C'est à peine s'ils nous racontent comment ils ont rencontré notre père. Enfin,
ce qu'on appelle l'éducation à l'africaine aussi.
Oui, un peu. On peut dire ça, je pense. Donc, il y a ce décalage-là, tout simplement, en fait, entre une éducation qui vient d'ailleurs et la française traditionnelle où, voilà, c'est naturel de savoir tout ça.
Ouais.
Donc, quand nous, on arrive, c'est cette rencontre-là qui fait que c'est très mal vécu. Mais c'est pour ça que je voulais en parler, parce qu'il est certain que je ne suis pas le seul à l'avoir vécu.
Non, mais tu vois, quand nous, on est deux Babtou,
on
lit ça,
ouais.
Et il y a des phrases qui nous restent en tête. Par exemple, tu dis, quand on arrive dans une classe ou dans n'importe quel endroit, on compte les Noirs.
Ouais.
Ça, c'est un truc que moi, j'apprends,
ouais,
quoi,
alors
tu
ça,
vois.
Ouais.
Et je me dis, pourquoi ils font ça? Après, je devine quand même, tu vois, c'est assez logique.
Je me sentir moins seul, voilà. Mais après, juste, et si on inversait la situation, vous vivez en Afrique?
Ouais, sans doute.
Et vous aurez arrivé dans une école, que des enfants noirs. Si vous voyez un blanc, vous savez qu'il est là.
Oui, c'est clair.
Tout simplement, en fait.
Oui, tu n'es même pas en train de le chercher, quoi, en fait.
C'est juste naturel, tu le vois, quoi.
D'ailleurs, dans ton bouquin, tu fais pas des dénonciations.
Non.
Mais tu dis, à un moment donné, j'avais souffert du racisme et je découvrais l'histoire des Noirs, l'origine du racisme, en fait.
Plus tard.
Plus tard,
plus tard, je découvre ça. Ouais, parce que quand on est gamin, on ne met pas de mots là-dessus, on se dit juste que le monde est comme ça et que, on n'a pas le choix. Ensuite, en grandissant, adolescent, au lycée, je crois.
Tu conscientises, quoi.
Ouais, tu conscientises. Puis tu as des potes plus âgés qui, eux, sont un peu plus documentés et qui te parlent de l'esclavage, qui te parlent de plein de moments de l'histoire des Noirs. Et tu te dis, ah, ok, d'accord, ok. Bon, c'est pas arrivé hier, tout ça.
Ouais. C'est à ce moment-là que tu découvres justement le rap et la musique.
Ça, tout se passe d'un coup, c'est-à-dire est-ce que t'as d'abord la musique, déjà
moi, Ouais. Mais en fait, de manière chronologique, c'est ok, primaire difficile, vie familiale compliquée à la maison, collège chaotique parce que problème à la maison, donc difficile de travailler, enfant perturbateur, et rencontre avec le rap. C'est vraiment ça qui s'est passé. Et le rap vient vraiment m'apaiser parce que je me rends compte que mon mal-être est partagé par d'autres. Ouais. C'est un réconfort tout de suite. Tout de suite. Ouais. Je me dis, ok, d'accord. Non seulement il y a d'autres qui le vivent, mais en plus on le chante. Donc tu peux l'écouter au quotidien. Ouais. Et vraiment, c'est puissant, quoi, ce que ça fait.
Même les gens qui t'entouraient, tu n'avais jamais retrouvé cette sensation, justement, d'être compris et de comprendre
ce qui parlait. Si, on a quelques potes, mon primaire, et c'est d'ailleurs nos amis, ceux avec qui on traîne. Mais on a quand même l'impression d'être isolé dans un quartier, dans une rue, dans une classe, enfin que ça nous concerne nous, quoi.
Local, c'est ça. Et comme tu dis, c'est notre univers.
C'est notre univers. Et si on prend le métro et qu'on va à la prochaine station, notre univers n'existe plus. On pense un peu ça, quoi.
Ouais. Mais tu dis un truc à un moment donné, tu dis, par rapport au rap, nous n'aimions pas le rap par hasard. À travers le rap, nous cherchions à saisir une place valorisante que la société ne nous donnait pas.
Ouais. Bah, l'école, c'est la formation à la vie en société. Ouais. Si t'es bien à l'école, tes résultats, etc., potentiellement, t'es censé avoir une bonne place après. Mais toi, à l'école, déjà, t'es en marge. Donc, tu comprends que ça va être compliqué d'avoir ta place aussi en société pour trouver un boulot. Parce que déjà, les codes à l'école sont pas vraiment respectés, puisque t'as du mal à rester assis, t'es bavard, t'as des bagarres et tout. Donc, on se dit, bon, ça risque d'être la même chose au travail. On ne dit pas que je vais me battre, mais peut-être qu'il y a des codes que je n'aurais pas assimilés. Du coup, tu dois trouver une place. C'est naturel. Tu dois trouver une place. Mais je peux même aller plus loin. Même les dealers de drogue.
En l'occurrence, toi, tu as fait les deux.
Je cherche une place. Il me fallait beaucoup de place.
Non, mais il y a un truc qui ressort, c'est que, en fait, t'es chamboulé dans ta vie, quoi. T'es viré de tous les
établissements,
ouais. Établissements scolaires où tu vas. Et en fait, tu développes une forme de violence, quoi, d'ultra-violence. On a l'impression que tu cherches pas la merde, mais par contre, quand on te cherche, on te trouve, quoi.
Ouais, donc, mais en fait, c'est parce que j'ai réussi à tourner les choses assez bien, je pense, dans le bouquin, mais il est clair que c'est moi le problème, en vérité.
Ah ouais.
Bah, ouais. C'est pas possible d'avoir autant de problèmes, enfin, de provoquer autant de bagarres. Ouais. Même si, devant le proviseur, je dis non, mais celui-là commence, peut-être que cette fois-là, oui, peut-être que la fois d'après, oui, peut-être, mais quand même, ça n'arrive qu'à toi.
Mais t'étais ultra susceptible, c'est ça ou
Ouais, j'étais ultra susceptible.
Ou jaloux
Non, j'étais ultra susceptible. Non, pas du tout jaloux. Alors là, non, j'en vais pas du tout les autres.
Parce qu'il y a quand même un mec, un jour,
ouais.
Tu le dis dans le bouquin, tu dis, je lui shoot la tête comme un penalty, quoi.
Ouais.
Deux fois de suite, et on t'arrête, et en fait, ouais. Toi, tu dis, j'aurais pu le tuer, quoi.
Je voulais le tuer.
Tu voulais le tuer.
Je voulais le tuer, ouais. Mais est-ce qu'on se rend compte, à 14 ans, de ce que c'est que la mort? Ouais, mais on sait pas. Ce que c'est que la mort, vraiment. C'est adulte qu'on sait, c'est le concept d'adulte en fait. La mort, si tu ne reviens pas, ok, très bien, mais réellement. Parce qu'un enfant comprend, d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'en Afrique, il y a ces enfants soldats, ils ne se rendent pas vraiment compte, ils tuent. Parce qu'ils ont conscience qu'ils sont en train d'enlever la vie à des gens. Et d'ailleurs, ceux qui sont en face souvent disent c'est les pires. Mieux vaut un adulte avec une arme, parce que peut-être dans le regard, il va se passer un truc. Un enfant, il ne se passe rien. Je pense que c'est un peu ça. On est juste. On a juste vécu dans la violence, mais pas seulement physique, c'est une violence psychologique. On est dur, on est juste dur. On est juste dur. Donc, il y a un mec qui nous fait chier, on le tabasse. Et moi, il m'a fallu beaucoup d'amour et de rencontres pour me rendre compte de cette violence en moi. Mais j'insiste sur le mot amour. C'est des gens, vraiment, qui m'ont donné de l'amour et qui m'ont fait comprendre que c'était un comportement déviant.
Ouais, mais tu aurais très bien pu finir en taule ou...
Ou mort.
Ou mort, voilà. Ouais, parce que tu as pas mal de potes qui sont morts.
Ouais, j'ai pas mal de potes qui sont morts. Ouais.
Et à un moment donné, tu dis, j'ai deux obsessions, c'est le fric et le rap.
Ouais.
Et on se rend compte qu'en fait, ta vie, elle est hyper matérialiste, quoi.
Ouais, gros capitaliste. Ouais, bah ouais, mais quand t'as rien.
Ouais, c'est ce que t'expliques.
Quand t'as rien, ne pas être capitaliste, en tout cas ne pas vouloir d'argent, c'est quand même un luxe de ceux qui en ont. Je suis désolé. Si tu bouffes, oui, tu peux te dire, j'ai pas besoin d'en avoir. Mais si tu manges pas, une bouffée, je le rappelle, du riz avec de la flotte.
Ouais, mais il y a un truc marrant, c'est qu'à un moment donné, tu vas rencontrer plein de filles, et vers l'âge de 20 ans, tu rencontres une fille qui s'appelle Adeline,
ouais.
Qui est blanche.
Ouais.
C'est ta première. ouais. blanche et tu dis, je comprends que j'ai le droit aussi moi-même de rencontrer une blanche.
Non, c'est pas vraiment comme ça. Ce que je dis, c'est que je crois que j'ai réussi à évoluer socialement parce que maintenant, je peux être avec ce profil de femme. Elle était à la fac, de bonne famille, en études de droit. Quand on est renvoyé de tous les états, de chaque classe au collège et qu'au lycée, après c'est un peu chaotique et qu'on a vendu de la drogue et qu'on est parti en garde à vue, c'est pas trop généralement la femme avec qui tu te retrouves. Et donc quand moi, à ce moment-là, je suis en master, je crois, ou je sais plus, des sociaux, et qu'on tombe amoureux et que ça fonctionne, je me dis, ok, il y a certainement un travail qui a été fait socialement. Quoi.
Ouais. Voilà. Mais un truc amusant, c'est qu'à un moment donné, tu te dis, en fait, le plaisir, c'est pas uniquement la possession,
ouais.
c'est aussi de prendre le temps de boire un verre en terrasse.
Et ça,
et t'avais jamais capté l'utilité des terrasses,
non.
quoi.
Non, je comprenais pas. Mais il y a plein de mecs de mon quartier qui ont lu le bouquin,
ouais.
Le quartier où je vivais à l'époque, dans le 19e, on a grandi après. Qui m'ont dit, mais grave, moi je comprends toujours pas.
Ouais.
Je comprends toujours pas. Alors parfois j'y vais parce que il y a ces nouveaux formats de terrasse, là c'est les chichas. Donc ils se disent, ouais, faut une chicha, mais c'est même pas ça dont je parle, moi. Ça reste encore très ghetto finalement.
Toi, tu parles des terrasses des beaux quartiers.
Ouais, des beaux quartiers. On est posé, on se prend une bouteille de vin blanc et on se sort quelque chose de sympa. Ouais.
Et puis, bouteille 6 fois plus chère que ce que tu pourrais avoir dans le commerce.
Exactement.
Et ouais. Sur une table avec des chaises.
Quoi. Et une table avec des chaises, et parfois on est coincé à Saint-Germain, le bar du marché, je sais pas si vous connaissez. Alors, là, dans le bar du marché. Hein. Mais attends, on est les uns sur les autres.
Non,
et
tout.
On paye la
bouteille
34 balles. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça. Et puis on passe un bon moment aussi. Ça rigole, on rencontre d'autres personnes. Maintenant, évidemment, je vais pas expliquer pourquoi c'est sympa. Mais au moment où je rencontre Adeline, je lui demande, parce que je sais pas. Nous, on a passé notre temps à faire des sous, à le coffrer et à acheter les derniers cris de tout. Les Nike, les vêtements, les téléphones portables, c'est ça qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut.
T'as fait d'autres découvertes à ce moment-là, justement, un peu dans cet esprit. Le ski,
ah oui, c'est marrant, ça.
Le ski, c'est énorme,
ouais.
Le ski. Ouais. Le ski, c'était énorme.
Ça, c'est
le ski, c'était énorme.
Ouais, raclette, tout ça. Avec la neige et en montagne, c'est quelque chose. Hein.
C'est la façon dont tu le racontes qui est drôle, quoi.
Ouais.
Bah ouais, que tu te retrouves avec ces gens-là au ski. Enfin, tous ces moments-là où toi, toutes tes références sont chamboulées.
Tout.
D'ailleurs, en fait, tu dis que tu as toujours eu le cul entre deux chaises.
Ouais.
Entre les Comores et la France, entre le ghetto et les beaux quartiers.
Et après, les beaux quartiers, ouais. Oh, ouais. Parce qu'en plus, j'apprécie vraiment le confort. Donc,
ouais, ça
très vite, je m'y fais. Très vite. Non, bon, je suis pas dépaysé. Ah, non. Après quelques mois, c'est bon. Je suis comme un poisson dans l'eau.
Ouais. Alors, si on reprend la chronologie du bouquin, à un moment donné, il y a un fait marquant, c'est que tu as envie d'avoir de l'argent,
ouais.
t'en as pas,
ouais.
et tu tombes sur de la weed
ouais.
chez toi.
Ouais.
En fait, c'est ton beau-père qui deal.
C'est vrai.
Et tu lui piques de la weed et tu commences à dealer toi aussi.
Ouais, c'est ça. Bah, je sais pas ce que je peux rajouter d'autre.
non, mais juste, on se demandait par contre avec Alex, jusqu'à quel point tu lui as piqué de la weed sans qu'il s'en rende compte, ou est-ce qu'à un moment donné, vous avez été complice ?
Non, on n'a pas du tout, il n'a jamais été complice.
Parce que c'est des grosses quantités quand même.
Ouais, il a 3-4 kilos à chaque fois. Mais, pardon, je ne sais pas si vous avez entendu, 3-4 kilos à chaque fois, mais il n'en a jamais parlé.
Et lui, il fume des gros linges avec vous.
Il était rasta, pas avec nous, non.
Non, mais vous êtes dans la pièce.
On est dans la pièce, ouais.
Vous avez 6 ans, quoi.
On a 6 ans, il fume des joints. Il fume des joints. À ce moment-là, nous, on ne sait pas. À ce moment-là, nous, on ne sait pas que c'est des joints. Mais on se dit que c'est une cigarette qui sent bon, quoi. Et non, il ne m'en a jamais parlé. Alors, je suis sûr qu'il le sait parce que je prenais des grosses quantités.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est sûr qu'il le sait.
Ton avis, pourquoi ?
Parce que t'es jeune, là, t'as 13 ans, tu commences à dealer.
13-14 ans. Je ne sais pas pourquoi. J'en ai aucune idée. Faudrait que j'en parle avec lui aujourd'hui. Je sais pas.
T'as encore des contacts avec lui ?
Ouais, bah c'est le père de mon petit frère et ma petite sœur.
Ah oui, d'accord. Okay.
Il est toujours dans les parages, quoi.
Ouais. Donc, le deal, ça a été le moyen, j'ai l'impression, toute ta vie, de te faire du fric jusqu'à ce que t'en gagnes légalement, quoi.
C'est exactement ça. C'était un peu mon boulot d'étudiant.
Ouais, et puis il y a des moments où j'ai l'impression que tu te dis, faudrait pas que je le fasse, mais merde, quoi. Quand tu commences à dealer de la coke, par exemple.
Ouais. Ouais, c'est ça. Bah, parce que c'est un démon puissant, quand même, la pauvreté. La pauvreté, c'est un démon puissant. Ça crée des frustrations telles que tu vraiment que t'as du mal t'as du mal à te décharger de ces tentations. Vraiment, c'est comment on peut l'imager ? C'est peut-être comme si t'étais un boxeur et qu'on t'avait mis des coups toute ta vie. T'as mis des coups toute ta vie, on t'a mis des coups toute ta vie et puis t'es marqué. Avant de ne plus avoir de bleu, il faut attendre un moment quand même.
Et tu sens qu'avoir pris des coups t'autorise à mener une vie qui ne soit pas forcément en toute légalité ou...
On s'en fout complètement.
Ouais, tu t'en tapes.
Mais on s'en tape complètement parce qu'il y a déjà une injustice qui est vécue. Donc c'est injustice contre injustice.
Ouais, c'est ça.
C'est tout. On se dit, bah, moi, je n'ai pas demandé dans cette situation-là, donc je ne vais pas demander l'autorisation. Mmh. Je le fais, c'est tout, je me débrouille.
Ouais. Mais tu fais même un... Il y a des coups de pute dans votre milieu, quoi.
C'est-à-dire
parce qu'en fait...
Je pense qu'il y a des coups de pute partout.
Ouais, mais il y en a beaucoup. Il y a des trahisons, en fait.
Comment
à un moment donné... Alors, c'est pas vraiment un coup de pute, mais Pete Bacardi te confie une save,
ouais.
50 grammes,
ouais.
Et tu l'utilises pour aller racketter un mec, en fait.
Mais c'est pas un coup de pute, ça. Il l'a récupéré.
Oui, il l'a récupéré. C'est un coup de pute utilisé. À l'autre que vous avez fait.
Ah ouais. Bah, je crois qu'on est juste... Encore une fois, des gamins.
Non, mais il faut expliquer le montage pour que les gens comprennent ce que tu fais. Là,
ah oui, bien sûr. Donc, j'ai un pote qui s'appelle Pete Bacardi, qui est un ancien rappeur, qui maintenant a une maison de production en Afrique, qui à l'époque était dealer. Mm. Et ce jour-là, il a plein de matos sur lui, donc de la drogue, du shit. Mais il doit aller voir une fille. Donc, il passe dans le QG où on était tout le temps chez Etienne, un autre ami, et il nous demande de garder sa savonnette quelques heures. Mm. On lui dit bien sûr, pas de soucis, mon pote et tout. Alors que nous, on savait déjà ce qu'on allait faire avec.
Ah ouais.
Et dès qu'il claque la porte, on se regarde, mon pote et moi, et on se dit, on va faire comme si on voulait la vendre, mais en fait, on va voler le fric du client et repartir avec notre shit.
Ce qui est un coup classique, en fait.
Ouais, c'est un coup classique. Ouais. Ouais. Mais après, tout le monde n'a pas une savonnette, donc c'était une chance, en fait, pour
nous.
On voit ça comme une chance.
Il y a le jeu d'acteur.
Après, il faut bien jouer la comédie.
Et là, on sent que c'est jouissif, quoi.
Ah ouais,
que vous
on
êtes
rigole,
prêts à marrer,
on rigole, on rigole, mais on est des gamins.
Ouais, mais c'est un vieux coup de pute à 1500 balles à l'époque. C'est énorme, c'est une grosse somme. Tu dis c'est l'équivalent de 1500 euros aujourd'hui.
Ouais, exactement. Bah ouais, mais c'était une belle journée.
Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le mec, vous faites un guet-apens, quoi. Le mec
vient, arrive, il est prêt à donner son fric, et puis donc à mon autre pote, Étienne, qui lui connaissait le gars. Et ensuite, moi j'arrive, je fais genre, je suis un mec du quartier un peu violent, qui fait du trafic et qui a ce territoire-là, et donc vous n'avez pas à faire vos affaires chez moi. Mmh. Et donc je le rackette. Et donc je prends son fric et le shit, sauf que je suis pote avec Étienne. Donc après, on se donne rendez-vous chez lui et on est tous les deux avec notre shit et notre argent.
Ouais.
Tout simplement. Mais on est parti en vacances grâce à ça.
Non, mais c'est ça en plus.
C'est le voyage à New York.
C'est le voyage à New York payé grâce à Internet. Quoi.
Ouais.
C'est énorme. Non, mais après, moi, je regrette aujourd'hui. Hein.
Non.
C'est dit, c'est signé. C'est bon,
c'est autre chose. Franchement, c'est le truc que tu vis quand t'es...
Tu regrettes.
Il n'y a pas de regret. Non, mais franchement, je plaisante même. Je veux dire, c'est pas spécialement de regret, c'est que...
Toi aussi, tu t'es pris des carottes.
Je regrette, ouais. Mais je regrette surtout d'avoir vécu toute cette vie. Enfin, tu vois, j'aurais... Enfin, encore, c'est même pas tout à l'heure vrai, parce que moi, j'aime l'homme que je suis devenu aujourd'hui, en fait. Mmh. Tu vois, donc finalement...
Tu peux pas nier ton passé, quoi.
Bah, c'est ça.
Par contre, ça aurait pu mal tourner.
Ça aurait pu très mal tourner, ouais.
Et à l'époque, Time Bomb, donc c'est un collectif qui regroupe pas mal de groupes.
C'est ça.
Et il y a des gens qui vont éclore, donc notamment
Booba.
Enfin, les Lunatiques dans un premier temps.
Ouais.
Puis Booba, Pete Bacardi.
Exactement, Oxmo Puccino.
Oxmo Puccino. Mmh. Et en fait, est-ce que toi, tu as... des regrets par rapport à ta carrière en tant que rappeur?
Non, j'ai pas de regrets.
Pas d'amertume non plus, ou de jalousie?
Pas du tout. Bah, déjà, on a eu notre petit buzz. Après, c'est sûr qu'on n'a pas explosé comme ces artistes-là, ce qu'on vient de citer. Mais on a fait ce qu'on avait à faire. Après, le rap, la musique, c'est quand même des métiers un peu de destin. C'est comme ça que je l'appelle dans ma tête. C'est, tu poses tes cartes sur la table, t'as un bon jeu ou pas, en fait. Ouais. On a posé nos cartes, c'était pas le meilleur jeu. Bon, bah tant pis.
Mais le jeu, en l'occurrence, c'est vous.
Le jeu, c'est notre vie et tout, etc., bien sûr.
Donc,
mais c'est pas grave.
T'étais pas fait pour devenir...
J'étais pas fait pour ça, non. Okay. Tout simplement. Alors, il y en a d'autres qui me diront que je dis une grosse connerie, hein, parce que encore à la semaine dernière, on me parlait de mes rap. Mmh. Mais. J'aime penser que c'est le destin.
À quel moment tu t'es dit ça, toi, que finalement c'était peut-être le destin de ne pas faire du rap? Parce qu'à un moment, il faut quand même, j'imagine que quand t'es dedans, t'y crois aussi, t'as envie, tu t'investis
carrément dans
tous les sons, dans les clips, dans les machins.
Ouais, et puis ça marche quand même, hein. On en vend les disques. Hein.
Et à quel moment t'as réussi à avoir ce recul là, de dire, ok, finalement, c'est peut-être que c'était normal que ça s'arrête et que c'était autre chose?
Je crois que c'est la fac et les possibilités de pouvoir vivre autrement.
D'accord.
Moi, je me dis, bon, j'en ai pas spécialement besoin, en fait.
Toutes les pistes commencent un peu à s'ouvrir ailleurs. Tu
exactement, je me dis, j'ai d'autres choix.
Je suis allé au bout de ce truc-là.
Exactement, ça fait plus de 10 ans que je suis dedans. Ah. Je vais peut-être laisser sa chance à autre chose.
C'est là que tu pars en...
Je pars à Bali.
À Bali, ouais.
Ouais. Et j'avais déjà commencé le bouquin, donc celui-là, et je le termine là-bas.
Mais en fait, c'est vrai que tu vas dans l'intime, quoi. On apprend autant sur le rap qu'on en apprend sur toi, quoi.
Mais je trouve ça... Enfin, je pense que les deux sont... Tu peux pas les dissocier. Pour bien comprendre le rap, je pense qu'il faut comprendre l'individu. Ouais. Mais pas moi, je pense qu'il faut comprendre les individus dans le rap. Oui. Autrement, tu peux pas comprendre pourquoi l'autre il va rapper.
En fait, tu racontes une histoire d'un mec qui fait du rap,
ouais,
qui aurait pu être, qui est partagé par d'autres, quoi.
C'est ça. Il y a des mecs en prison qui m'ont dit, putain, mec, j'ai quasiment la même histoire que toi, sauf que je suis pas allé à la fac, donc moi je suis en prison. C'est presque... Il y a plein de gens, ouais, qui sont reconnus. Ouais.
Et t'as des regrets par rapport au bouquin, des choses que tu dis, j'aurais peut-être pas dû le dire, ça.
Non, 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 je pense qu'il faut le dire. Je pense qu'il faut dire les choses. Mais parce que, c'est, tu sais, moi, je la lis même plus comme mon histoire.
C'est non, mais je veux dire, quand tu lis le bouquin, tu donnes le nom de mec qui dealait à une certaine époque, ouais, etc. Ouais.
Mais j'ai fait ça parce que je crois que la puissance de la vérité est difficilement égalable. Moi, je crois en ça. Je pense que juste parce que le truc est vrai, parce que c'est les vrais noms, parce que, ça a une énergie. Alors peut-être que je suis complètement délirant. Mais je crois vraiment que l'énergie de la vérité est trop puissante. Et j'aime les choses puissantes, que ce soit en musique, que c'est dans le rap, que ce soit quand je produis un truc, j'aime la puissance. Ouais. Et je pense que ça n'a pas loupé, parce que juste tous ceux qui sont dans le bouquin, que ce soit le dealer, que ce soit, etc., qui m'ont appelé, etc., eux ont ressenti quelque chose. Donc la puissance dont je parle, en fait, elle existe à travers eux aussi. Mmh. Et qui, eux, après, vont dire à leurs potes, « T'as vu ce qu'il a écrit, lui ?» Tu vois, et c'est en ça que je pense que l'énergie de ce bouquin-là naît.
Mais tu vois, à un moment donné, tu parles de Booba, et en fait, on comprend bien que le mec, la première fois que tu le vois arriver, direct, c'est une star, quoi. Il met tout le monde d'accord.
Booba a toujours été une star.
Non, mais... Enfin, je sais pas, moi, le ressenti en lecture, c'est que ce mec-là a un charisme de ouf,
quoi.
Non,
mais ça a toujours été une star. Non, mais c'est exactement comme ce que j'ai écrit.
Ah oui, d'accord.
C'est exactement ce que j'ai écrit.
Enfin, ça a toujours été une star.
Booba a toujours été une star.
Même quand il avait sorti un titre.
Moi, je l'ai rencontré, il a 17 ans, et il avait écrit... Il n'avait même pas encore fait le Crime Paix, ouais, qui est sa première chanson qui a explosé.
Voici le métis, café crème, l'MC, cappuccino, criminel OMC, si t'es pas chez nous, c'est nique le taf, le bis, mépris et les jeans, les pauvres claques, mon style craque, reflet.
Et lui, tu l'as contacté ou pas? Non, vous êtes plus.
Si, on est en contact. Ouais. Mais est-ce que je l'ai appelé? Ouais, je l'ai contacté, mais il s'en battait les couilles.
Il s'en bat les couilles.
Ouais, il a dit, vas-y, fais ton truc, c'est cool, ouais, quoi. Mais il a validé fort, hein. Il a reposté.
D'accord.
Tu vois, non, on est en très bon terme.
C'est marrant parce qu'à un moment donné, tu arrives, je sais plus quel truc tu dois faire avec lui, puis tu as un casque sur la tête.
Ouais.
Et il baisse la vitre, et toi, tu as oublié que tu avais ton casque.
Ah ouais.
Et en fait,
il est prêt à me tirer dessus. Hein.
Il a un gun sur lui.
Ouais,
quoi.
Il est prêt à me tirer dessus. Ah ouais, non, mais c'est pas mon
fou. Et il est en Bentley, il a 20 ans.
Non,
quoi.
Mais un peu plus. Ouais, je sais plus en quelle année on est. Ouais, mais un truc comme ça, en tout cas, il a la vingtaine. Mais surtout, il a une Bentley, c'est genre un truc comme 200 à 400 000 euros, ouais, dans le 19e, le ghetto profond. Ça, c'est il n'y a qu'une seule personne pour faire ça. Ouais. Tu vois, il n'y a pas un mec que tu vois qui est multimillionnaire, qui habite, je sais pas, dans le 16e, qui a une Bentley, qui veut aller dans le 19e à 2h du matin. Il ne veut pas, le mec. Tu vois, juste parce que c'est du suicide. Ouais. Donc, quand moi, je vois ça, je vois immatriculé 92, je sais que c'est Booba. Parce que les vitres sont teintées, donc on ne voit pas l'intérieur. Donc, je tape à sa vitre. Et il baisse la vitre, et donc je fais oh, ouais, mais lui, il me voit pas parce que j'ai un casque intégral.
Ah oui, il est même pas dans son quartier à lui. Parce que lui
il est dans mon quartier. Il est dans mon quartier.
Ouais, donc il porte ses couilles quand même.
Ah, ouais, c'est ça. Ouais. C'est une tête brûlée. C'est vraiment une tête brûlée. T'es en voiture à 200 000 balles dans le 19e, tu as confiance en toi.
Ouais. On parle largement, t'as des projets, donc t'as Reverse qui arrive.
J'ai Reverse.
T'en es où de ce projet-là et
j'en
quoi,
suis où C'est difficile d'en parler parce que sans. Vendre tu vois, le truc, parce que c'est vraiment un concept et j'ai envie que les gens découvrent ce concept en lisant le bouquin.
D'accord, ok.
Mais ce que je peux dire, c'est que c'est un bouquin historique qui commence au 14e siècle et qui termine au 21e siècle. Donc c'est vraiment, je recouvre toute l'histoire, ça va être en deux ou trois tomes.
Donc là, on sort de la biographie.
Ah ouais, là, on n'est plus du tout avec moi, on n'est même plus dans le rap. Hein.
D'accord, ok.
Ah, on est même plus dans le rap.
Là, t'es l'écrivain, là, à 100%.
Ouais, mais... Oui, carrément, parce que enfin, si être écrivain, c'est raconter une histoire qui ne te concerne pas, ouais, là, on est là-dedans. Mais en fait, ça me concerne un peu, en fait. C'est l'histoire... je choisis quand même les histoires que je veux raconter. Dans l'histoire.
Ce qui n'est pas délirant non plus, quoi.
Non, mais je pense que ça va résonner chez beaucoup de gens. Ouais. Je pense que ça va résonner chez beaucoup de gens. J'ai fait, il y a deux ans et demi, trois ans de recherche. D'accord. J'ai 400 pages de notes. Ouais, j'ai 400 pages de notes.
Et on ne saura pas de quoi il s'agit.
C'est difficile de dire.
C'est le pire des teasings. Ouais. Et c'est ça ta vie actuellement, là, l'écriture?
C'est tout.
Ouais, c'est tout.
Uniquement, ouais. Okay. C'est assez agréable. Je veux surtout faire ce que j'aime.
Ok.
Faire ce que j'aime parce que dans ce que j'aime, je crois qu'il y a aussi pas mal de... Enfin, j'aimerais passer des messages, quoi. Tu vois, il y a des choses que j'aimerais dire. Et donc, ça me fait vraiment... J'aime ça, quoi. Donc, si je, voilà, je peux vivre comme ça encore des années et des années, je serais très heureux. Pour le moment, je profite de chaque moment.
On est bon, là. Hein, ça fait une belle conclusion. Hein.
Ah bah, merci à toi.
Tu veux ajouter un truc?
Non, juste merci à vous, c'était super cool.
Cool. Bah, merci à toi.
Bah, on va se dire merci encore.
Tu reviendras pour Reverse, quoi.
Avec plaisir. Avec plaisir.